heureux, l'occasion de me joindre à vous. J'espère ne pas trop vous accabler, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Je compte en tout cas être renouvelé moi-même et instruit par votre apport dans les moments d'entretien. Je pense qu'on peut dire qu'il y a comme un pool de ressources spirituelles, des trésors d'expérience qui se trouvent comme réunis dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui, dont nous pouvons tous profiter. Alors, j'espère qu'effectivement, je le laisserai à l'exposer assez de temps pour les entretiens qui sont souvent les moments les plus enrichissants de rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui. Je peux dire aussi que je suis heureux de faire enfin connaissance avec les locaux, au moins de l'assemblée de Fastadt, d'entre eux dans la correspondance de l'apôtre Paul avec les Corinthiens. Il ne s'agit pas de textes que je compte privilégier spécialement, mais nous y ferons forcément allusion. Je crois qu'ils peuvent nous être fort utiles. Et je voudrais lire maintenant dans la première aux Corinthiens, le chapitre 5, et dans la seconde, quelques versets qui font écho. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre explose dès les premières lignes. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes en fait d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Et puis dans la seconde aux Corinthiens, le dernier verset les deux derniers versets du chapitre premier, d'abord, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme, c'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Et puis au verset 5 du chapitre 2, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le thème de la discipline que vous avez choisi est un thème austère et qu'on peut guère dire au goût du jour. Le temps n'est plus où Martin Bucer faisait de la discipline la troisième note de l'Église, avec la prédication de la parole de Dieu pure et l'exercice des sacrements, l'administration des sacrements, selon l'institution du Seigneur. Il a été suivi d'ailleurs par un certain nombre de confessions de foi de ce temps de la Réforme. On peut dire que l'idée de discipline contrarie les tendances dominantes des mentalités contemporaines, elles qui déteignent tant sur les églises. Nous savons bien sûr que lorsqu'une tendance dominante se manifeste, il est toujours possible de réagir et même de surréagir à son propos, de se porter à l'autre extrême. À ce propos, il est, je pense, utile de rappeler que lorsqu'on réagit, on continue d'être déterminé par ce qui fait réagir, que l'on en est en quelque sorte prisonnier en adoptant le contre-pied de ce qu'on veut dénoncer. Lorsque c'est principalement par réaction que nous adoptons un comportement donné, nous ne sommes pas vraiment libres des tendances face auxquelles nous nous disposons. Et souvent, les opposés ont des affinités secrètes, ont une parenté cachée. C'est ce que la psychologie moderne a mis en valeur, montrant que souvent, les attitudes inverses, en quelque sorte, procèdent des mêmes mécanismes inconscients, mais c'est ce que déjà l'Écriture enseigne clairement. Je pense en particulier à la licence et au légalisme qui sont profondément parents, au paradoxe du légalisme comme satisfaction de la chair, au légalisme et à l'ascétisme même, pensez au texte de l'Épître aux Colossiens, qui souligne que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, en fait, contribue à la satisfaction de la chair. C'est une complaisance pour soi sous des formes en quelque sorte inversées. Il peut arriver que face au laxisme qui domine en matière de discipline aujourd'hui, nous soyons portés à une réaction qui n'est pas réellement indépendante des mêmes motivations secrètes. Mais il est certain que le sujet n'est guère abordé le plus souvent dans les rencontres d'aujourd'hui et qu'il y a là contraste avec une note présente presque pendant toute l'histoire de l'Église, dans toute la continuité du christianisme évangélique, et un contraste avec le Nouveau Testament lui-même. Je me propose de traiter le sujet confié en le divisant de la manière suivante. Ce matin, je pense parler plutôt des principes et cet après-midi de l'application. La séparation entre les deux est toujours d'ailleurs difficile. Ce qu'on applique, ce sont les principes, et lorsqu'on parle des principes, on imagine déjà comment les appliquer, donc il y a quelque chose d'artificiel à réserver le matin au principe et l'après-midi à l'application. En fait, il y aura des chevauchements inévitables. Mais enfin, cela pourra, me semble-t-il, nous aider à dire les choses dans un certain ordre. En ce qui concerne le plan de ce matin, je crois que je vais vous dire le plan que je prévois de suivre. Ça vous sécurisera peut-être. Vous verrez à quelle vitesse nous avançons. Ce matin, donc, sous le titre un peu général des principes, je voudrais parler du fait de la discipline selon les données bibliques, rappeler les textes principaux qui nous montrent que l'Église du Nouveau Testament n'était pas une Église dépourvue de l'exercice de la discipline, parler ensuite des fondements, puis des fins de la discipline, c'est-à-dire de ses buts, et terminer sur les tentations de la discipline. de quelle façon il peut y avoir dérapage, mais toujours en considérant principalement les principes. Et puis cet après-midi, donc sous le titre de l'application, je pense aborder d'abord la question des domaines dans lesquels la discipline s'exerce, de ses moyens, avec la graduation des moyens, poser la question des responsables qui doivent l'exercer, et puis aboutir à des illustrations. J'en ai prévu 3, simplement, pour que nous ayons l'occasion de dire, dans des situations relativement banales, mais en même temps complexes, comment nous penserions approprier l'exercice de la discipline, l'application des principes. Vous avez maintenant donc clairement devant vous le schéma que nous allons suivre. Essayons tout d'abord de définir ce que nous entendons par discipline dans l'Église. Le mot lui-même n'est pas précisément biblique, il ne se trouve pas dans nos traductions habituelles du Nouveau Testament. Et le petit Robert, si nous reportons au dictionnaire, ne semble pas connaître un usage ecclésial ou ecclésiastique du terme. Parmi les sens que le petit Robert distingue, le sens numéro 2 se rapproche déjà, c'est le sens de direction morale. Et le sens numéro 4 semble correspondre assez bien, sans être tout à fait celui que nous cherchons. Le sens numéro 4, c'est « règles de conduite communes aux membres d'un corps, d'une collectivité, et destinées à y faire régner le bon ordre ». Par extension, l'obéissance à cette règle, avec en addition l'expression « conseil de discipline » chargé de sanctionner les infractions à la discipline. Donc nous rapprochons du sens que nous donnons au terme de discipline dans l'Église avec une telle définition. Si je me repense maintenant au dictionnaire théologique, j'ai pris dans une encyclopédie du christianisme évangélique une définition du théologien néerlandais Klaas Runia, R-U-N-I-A, que vous connaissez peut-être, moi je le connais bien, nous avons collaboré à plusieurs reprises, il est le président de l'Association Européenne de Théologiens Évangéliques. Il enseigne la théologie pratique à la faculté de théologie de Kampen aux Pays-Bas, et c'est un homme d'envergure qui donc préside cette association qui a un congrès tous les 2 ans, vous pourriez éventuellement vous y intéresser d'ailleurs, en Allemagne en général, il y a un congrès à la mi-août, un congrès tous les 2 ans qui rassemble les théologiens évangéliques de toute l'Europe. Alors sa définition, dans l'article sur la discipline de l'Encyclopédia Christianae, est la suivante. C'est la censure par les responsables officiels de l'Église des membres qui ont commis un péché grave et refusent de se repentir. La censure par les responsables officiels, je traduis de l'anglais, hein, c'est office bearers qu'il a écrit, donc les responsables officiels de l'Église, des membres qui ont commis un péché grave et refusent de se repentir. Malgré mon amitié et mon estime pour Klaas Runia, je trouve cette définition trop étroite. Alors, si je la cite, c'est aussi pour m'en distancer quelque peu. Il me semble qu'elle réserve trop la discipline aux seuls responsables officiels, aux seuls titulaires d'un ministère de premier rang. Alors, nous aurons à y revenir sur tout cet après-midi. Et d'autre part, qu'elle concerne seulement le dernier stade de la discipline. Alors que le terme me semble convenir pour un ensemble beaucoup plus diversifié et selon une échelle où la censure d'un péché grave, d'un pécheur impénitent, n'est que le terme le plus fort. Alors je vous propose cette définition. Je me risque, vous voyez, à rivaliser avec l'insonia dans cet exercice. J'appellerai discipline les mesures prises pour corriger les membres de l'Église coupables de fautes graves et grossières, et plus généralement pour préserver et promouvoir l'ordre prescrit par Dieu en matière de foi et de mœurs. Mesures prises pour corriger les membres de l'Église coupables de fautes graves et grossières, et plus généralement pour préserver et promouvoir l'ordre prescrit par Dieu en matière de foi et de mœurs. J'aurais pu me contenter de la deuxième moitié de cette définition. Ça aurait été peut-être plus correct d'un point de vue scolaire, mais comme le point névralgique, c'est quand même ce qui concerne les péchés graves et grossiers, je pense utile de mentionner en premier lieu ce point pour indiquer ensuite que nous avons à le considérer dans un ensemble plus vaste. La discipline ainsi conçue, ainsi définie, et vous pourrez très bien proposer d'autres définitions si vous le souhaitez, il me semble possible d'affirmer en premier lieu que les églises du Nouveau Testament en montrent l'exemple. Il y a un fait biblique observable d'une telle discipline. Les membres de l'Église coupables de fautes graves et grossières sont soumis à des mesures destinées à les corriger, et plus généralement, on s'y efforce de préserver, de promouvoir l'ordre prescrit par Dieu en matière de foi et de mœurs. L'Église n'est pas une fraternité anarchisante. Elle ne se propose pas l'idéal de l'abbaye de Thélème. Vous vous rappelez que Rabelais, le penseur très typique de la Renaissance, de cet esprit qui a dominé ensuite la modernité, que Rabelais dépeignait son idéal de vie collective sous le titre de l'abbaye de Thélème. Le mot « telem » étant le mot grec pour « volonté », sans doute utilisé pour suggérer que c'était la bonne volonté spontanée des membres de cette abbaye qui devait être la seule règle. Et la seule règle correspondant à l'absence de règle de cette abbaye, c'était « fais ce que voudra ».« Fais ce que voudra ». Lorsque des personnes de qualité s'animaient de bonne volonté vivent ensemble, elles n'ont besoin d'aucun ordre établi pour régler leurs relations. Il suffit qu'elles se laissent conduire par leurs inclinations et tout se passe pour le mieux dans la meilleure des abbayes possibles. C'est un idéal typique de l'esprit de la Renaissance, que celui de l'abbaye de Thélème, pas besoin de discipline. La formule « fait ce que voudra » comme devise, en quelque sorte, de l'abbaye de Thélème, est une adaptation tout à fait consciente et délibérée d'une parole de saint Augustin. Saint Augustin a écrit quelque part, il ne faudrait certainement pas déraciner de son contexte cette formule, aime et fait ce que voudra. tous les commandements de Dieu se résument en celui de l'amour, et celui qui est conduit par l'amour, la charité que répand le Saint-Esprit, accomplit naturellement tous les commandements. Donc, aime et fais à ce moment-là ce que tu veux et tu obéiras entièrement à la volonté de Dieu. Voilà le sens de la parole d'Augustin. Et Rabelais l'adapte en faisant tomber le commandement d'aimer qui subsiste encore dans la formule augustinienne. Il ne reste plus que « fais ce que voudra » parce que le présupposé très peu augustinien de Rabelais, c'est celui de la bonté essentielle de la volonté individuelle des humains. C'est au sens moderne du terme l'humanisme qui s'affirme. Il est clair que l'Écriture ne propose pas l'idéal de l'abbaye de Thélème à l'Église. On peut noter que certains théologiens modernes semblent se rapprocher de l'idéal rabelaisien ou peut-être simplement anarchisant. Émile Brunner, le théologien néo-orthodoxe de Zurich, manifestement est allergique à l'idée d'un ordre objectif et institutionnel. Ce qu'il préconise, c'est la création de petits groupes sans structure, où l'on vit la communauté d'une manière chaleureuse. Et on pourrait dire que son idéal, c'est l'idéal d'une communauté. Il opposera ça à l'Église au sens germanique, Kirche, l'Église institution. C'est l'idéal d'une communauté sans une véritable discipline. Discipline n'a pas besoin de s'exercer. Et je crois que cette tendance, Brunner évidemment est mort depuis maintenant pas mal d'années, et il n'a pas de postérité très directe, que cette tendance n'est pas totalement effacée. Qu'il y a un courant qu'on pourrait dire anarchiste qui se manifeste dans la chrétienté occidentale en tout cas, que sans être aussi extrême que Brunner, un théologien comme Jürgen Moltmann n'aime pas non plus de manière assez manifeste ce qui est autorité instituée. Il polémique en tout cas très régulièrement contre toute idée de hiérarchie. Il n'aime guère l'objectivité fixée qui correspond à l'idée de discipline. Dans le Nouveau Testament, au contraire, il me semble qu'on peut dire qu'il y a un tel ordre défini, qu'il y a des gouvernements qui sont institués pour le faire respecter, c'est une de leurs fonctions au moins, et que même des étapes de procédure sont prévues. Nous allons rappeler les textes principaux, mais avant d'en venir à ces textes principaux, je rappelle que l'arrière-plan de l'Ancien Testament, nous n'avons guère le temps d'étudier, n'est pas sans intérêt à cet égard. N'oublions jamais que le Nouveau Testament est le deuxième volet d'une révélation qu'il faut toujours tenter de comprendre globalement, que l'Église s'est comprise comme l'Israël de Dieu, que sa Bible, d'ailleurs dans les premières générations, c'était l'Ancien Testament, avec une, deux épîtres qu'elle pouvait avoir en main, le souvenir de l'enseignement oral d'un apôtre aussi, mais que sa Bible, à laquelle elle se reportait, c'était l'Ancien Testament. Que le nom même d'Église semble bien correspondre, oui, on en est tout à fait sûr, au terme utilisé pour l'assemblée d'Israël dans l'Ancien Testament, Kahal, en hébreu, mais traduit ecclésia, église, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il y a, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et ces termes même l'indiquent, une transposition, une mutation importante, mais il y a aussi une continuité. Et par conséquent, lorsque nous parlons de quelque chose qui concerne la vie de l'Église dans le Nouveau Testament, il est toujours intéressant pour nous de voir s'il lui correspond déjà une donnée de l'Ancien. Et oui, en effet, pour le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance, pour l'Assemblée, la Kahal de l'Éternel, d'après les textes de la loi et des prophètes, nous voyons bien que l'exercice de la discipline, on peut employer ce terme, avec une très grande place. Législation détaillée, définissant un ordre pour la vie du peuple de Dieu, c'est même tout à fait volumineux, dans le total des pages de la première partie de notre Bible, et institution de gouvernement pour veiller à ce que ces lois et règles, ces préceptes et ordonnances, etc., soient effectivement appliquées. Et je rappelle ce propos que le verbe juger a une grande extension de sens dans l'Ancien Testament, que gouverner, régner, se dit très souvent juger, c'est significatif. La tâche sans doute principale de celui auquel Dieu confie de l'autorité pour paître le troupeau de l'Éternel sera de juger, en quelque sorte de jouer le rôle d'instance disciplinaire. L'Ancien Testament montre le souci du Seigneur de faire prévaloir une paix d'harmonie au lieu du désordre chez ceux qui portent son nom sur la collectivité qui lui appartient et sur laquelle son nom est invoqué. Alors c'est un arrière-plan que je crois tout à fait important pour la réflexion sur la discipline dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, que trouvons-nous plus particulièrement? Dans les évangiles. D'abord, alors que la transition des deux économies s'amorce, elle n'est pas encore accomplie. Deux passages en particulier attirent l'attention. Ce sont les deux seuls passages où le mot « église » se trouve sur les lèvres de Jésus. Comme vous le savez, Matthieu 16 et Matthieu 18. Dans Matthieu 16, après la confession que Pierre, par une grâce que le Père lui a communiquée, a faite, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui répond en jouant sur son nom et en lui disant donc tu es Pierre, et sur cette pierre, tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon Église. Alors, je n'entre pas ici dans le débat sur la signification exacte de ce jeu de mots. Et Jésus ajoute qu'il donnera les clés du royaume des cieux à Pierre, que ce qu'il liera sur la terre sera lié dans les cieux, que ce qu'il déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, donc 19. L'expression « lié, délié » était tout à fait caractéristique du langage des rabbins de l'époque. Cela sent très fort son cadre de vie judaïque, palestinien de l'époque. Et cela se rapporte, semble-t-il, habituellement sous la plume des rabbins au pouvoir disciplinaire. Quelquefois, rarement, il s'agit d'admettre et d'exclure de la communauté, de la synagogue. Lié, délié, voudrait dire admettre dans la communion de la synagogue ou excommunier de la synagogue. Nous savons que de telles mesures étaient prises. D'ailleurs, dans le livre, vous vous rappelez qu'il est question de gens qui ont eu peur d'être exclus de la synagogue. Mais le plus souvent, l'expression liée et déliée se rapporte aux décisions sur les objets plutôt que sur les personnes prises par les rabbins en tant que gardiens de la discipline dans le peuple juif. Lier et délier, c'est interdire et permettre, définir ce qui sera admis ou ce qui sera exclu. À la fois, quant à des points de doctrine, essentiellement d'ailleurs de doctrine morale et rituelle, c'était ce dont les rabbins se préoccupaient essentiellement, le contenu de la foi était très très peu discuté, en fait. C'était pas totalement absent, mais tout l'accent se portait sur les questions de comportement. Donc à la fois sur des questions de doctrine, mais plus souvent de doctrine morale ou rituelle, et sur des questions de type plus disciplinaire, que faire dans telle situation, quelle action prendre, interdire ou permettre. En employant cette expression typique, Jésus semble bien remettre à Pierre, alors Pierre tout seul, Pierre représentant du collège des apôtres, Pierre représentant tous les croyants confessant le nom de Christ, je laisse cela de côté pour le moment en tout cas, Jésus semble bien remettre à Pierre une autorité disciplinaire. Jésus probablement va bien au-delà du sens rabbinique, et il ne me semble pas illégitime de comprendre cette parole de la libération de la puissance du péché et de ses forces du séjour des morts dont il est question dans le verset qui précède par la prédication. Le rôle des apôtres comme prédicateurs de l'évangile qui définissent au nom du Christ la vérité même de l'évangile me semble impliqué au moins ici. Mais enfin, notons que, selon l'image de la maison, je bâtirai mon église sur ce rocher de fondation, selon l'image de la maison, il s'agit quand même de l'ordre qui doit régner dans la maison. Donc Matthieu 16, comme premier grand passage, deuxième grand passage, Matthieu 18, où il est question de litiges parmi les membres de la communauté. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux, sous-entendu témoins, selon la règle qui est formulée déjà dans la loi de Moïse. Nous avons là la continuité avec l'Ancien Testament. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, Nikos, ou un publicain, PAG. Amen, je vous dis, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons la même formule liée déliée qui est utilisée, mais là en rapport avec une procédure où toute l'Église est en cause. Alors, nous aurons certainement à y revenir, mais je signale qu'il y a un petit point concernant le texte qui est en débat. Nombre de manuscrits au début du verset 15 ont « si ton frère a péché contre toi ». À ton égard. La plupart des versions modernes juge que ces deux petits mots contre toi ne se trouvaient pas dans l'original et ne les reprennent pas. Ainsi la Bible à la colombe que j'ai sous les yeux, mais c'est aussi la Bible de Jérusalem, la Tobe, qui ne reprennent pas ces deux termes. En revanche, parmi les versions modernes, la RSV, Revised Standard Version, en anglais, a repris contre toi. Les éditions du Nouveau Testament grec, qui font autorité dans le milieu scientifique, considèrent que c'est à peu près 50%. Très difficilement savoir. Il est faux de dire que la plupart des manuscrits anciens ne contiennent pas ces mots. En fait, la plupart les contiennent. Mais il y a les deux plus prestigieux manuscrits, ceux que on considère couramment comme les manuscrits de la meilleure qualité, dont les scribes ont le mieux travaillé, le Vaticanus et le Sinaiticus, qui n'ont pas ces deux mots. C'est pour cela qu'on hésite tellement. Quand il y a deux grands témoins, parmi les plus anciens et de si belle qualité, qui n'ont pas ces mots, on se dit, aïe, 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 était-il vraiment dans l'original, dans les autographes, alors que même pratiquement tous les autres manuscrits les comportent. Voilà, je ne pense pas que cela change quand même énormément quant à la portée du texte pour nous, mais enfin, on peut éventuellement en reparler. Signalons que le langage utilisé ici fait penser à certains textes de Qumran, surtout un texte de la règle de la communauté de Qumran, qui prévoit, je crois que j'ai pris la citation exacte, que nul n'amène une affaire contre son prochain devant les nombreux, c'est-à-dire les membres de la communauté de la secte de Qumran, qui n'a pas été soulevé dans une répréhension devant témoins. Certains ont rajouté deux témoins, mais ce n'est pas là dans le texte de cette règle de Qumran. Vous voyez que nous avons là une phrase qui correspond assez étroitement à la règle que Jésus pose pour ses disciples dans leur vie communautaire.
C'est évidemment antérieur.
Oui, la règle de la communauté est certainement antérieure au ministère de Jésus et à la rédaction de l'Évangile, mais même au ministère de Jésus. La règle est quand même un des textes relativement anciens, il doit dater au plus tard du 1er siècle avant notre ère, ce texte de la règle de la communauté, Qumran. Et je pense que le parallèle est fort intéressant parce qu'il y a à la fois de grandes ressemblances et de grandes oppositions entre la communauté de Qumran et l'Église du Nouveau Testament. Sur bien des points, les deux communautés se ressemblent, ne serait-ce que par l'appropriation du titre de communauté de la Nouvelle Alliance. La secte de Qumran, sans doute une branche de l'essénisme, s'est appelée la communauté de la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance n'était pas très nouvelle, très renouvelée, mais ils avaient repris le terme, ils se considéraient comme le véritable Israël face à une masse apostate d'un Israël, là j'emploie l'expression du Nouveau Testament, d'un Israël selon la chair, qui s'était détourné de la voie. Il se parait du titre des fils de lumière contre les fils de Bélial. Donc il y avait vraiment là des points de contact extrêmement intéressants. On a aussi observé qu'il y a un titre, c'est le titre de Mevaker, qui correspond à l'un des responsables de la communauté de Qumran, qui peut se traduire très exactement en grec, épiscopos, évêque, épiscope, évêque. C'est là quelque chose qui est assez frappant. Mais d'autre part, alors, des contrastes d'une extrême vivacité, c'était des hyper-légalistes qui attaquaient les pharisiens pour laxisme, parce que les pharisiens étaient trop accommodants. C'était des hommes de compromis aux yeux des Qumraniens. C'était précisément retiré au désert pour vivre une obéissance beaucoup plus rigoureuse. Et une des illustrations, je vois que ça vous intéresse, alors, bon, je la glisse, bien que ce ne soit pas tout à fait notre sujet, une des illustrations de cette proximité et de ce contraste à la fois, c'est l'utilisation, semble-t-il, par Jésus, d'un élément de la polémique qumranienne contre les pharisiens. Les qumraniens aussi reprochaient aux pharisiens de repêcher de la fosse leur âne ou leur bœuf le jour du sabbat. Cette contradiction des pharisiens qui refusaient tout travail le jour du sabbat, mais qui autorisaient quand même, en cas de danger pour une portion si précieuse de leur patrimoine, quand même là une action de sauvetage le jour du sabbat, cette contradiction, les qumraniens l'avaient remarquée. Et quand Jésus la met en relief, il reprend, on pourrait dire, une arme de la controverse entre les Esséniens qumraniens et les pharisiens. Mais avec des attitudes juste opposées. Les qumraniens, eux, ils laissaient mourir leur bœuf ou leur âne au fond du trou. Le sabbat, en toute rigueur. Mais pas question d'accommodement. Et Jésus, lui, reproche aux pharisiens la même inconséquence, mais alors dans un sens de libération. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est très très intéressant. Bon. Donc, à cause de ces points de contact formels, le fait qu'à Qumran, il y ait une discipline qui s'exerce avec une procédure qui ressemble à celle de Matthieu 18, c'est un point qu'on peut relever. Deuxième remarque que j'ajoute à ce que je viens de dire sur Matthieu 18, il y a au chapitre 20 de l'évangile de Jean, donc lorsque le Seigneur ressuscité apparaît aux 11 et aux disciples, c'est plus généralement dit, il y a une parole qui n'emploie pas les mots de lier et de délier, mais qui ressemble beaucoup dans son rythme et semble-t-il dans sa portée. Vous avez la parole que Jésus prononce après avoir soufflé ou insufflé l'Esprit Saint sur eux, à mon avis pour montrer que l'Esprit Saint est l'Esprit de résurrection et l'Esprit qui procède de lui en tant que ressuscité. C'est pas encore l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est une annonce de cette effusion du Saint-Esprit qui est placé le jour même de Pâques pour montrer le lien théologique entre l'événement de la résurrection et le don du Saint-Esprit. Donc Jésus insuffle ses disciples, littéralement, c'est insuffle, il leur dit « Recevez Esprit Saint », sans article, c'est aussi significatif sans doute, et il ajoute « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront retenus, ceux desquels vous les retiendrez, ils seront retenus. »
Et
oui, là, c'est, pourrait-on dire, délié d'abord et ensuite lié. On peut interpréter en tout cas cette parole aisément comme correspondante à celle de Matthieu 16 et y voir la fixation par les apôtres d'abord, relayée par les prédicateurs de l'évangile, des conditions du pardon des péchés. Et peut-être plus généralement, des dispositions de la discipline communautaire de l'Église. On peut ajouter peut-être à tout cela, concernant les évangiles, que dans la petite troupe qu'il avait rassemblée autour de lui, Jésus a pris bien soin de définir un ordre, que les choses ne se faisaient pas à la bonne franquette, n'importe comment, dans la vie du groupe des disciples autour de Jésus. Ce n'était pas l'abbaye de Thélème non plus, n'est-ce pas ? J'ai essayé d'étudier un petit peu cela dans un article sur Jésus éducateur, du point de vue de la pédagogie que cela mettait en œuvre. Je ne sais pas si quelques-uns de vous ont lu cet article autrefois dans la revue Ictus. Mais du point de vue de notre sujet aujourd'hui, je crois que c'est assez remarquable. Il y a d'abord l'autorité de Jésus comme chef du groupe. Vous m'appelez maître et seigneur, vous faites bien, car je le suis. Et si Jésus lave les pieds des disciples le dernier soir, c'est à titre de signe qui les surprend, parce que ce n'était pas l'habitude. Sans cela, il n'y aurait pas eu cet effet sur Pierre et sur les autres. Jésus se comportait comme le rabbin chef de cette troupe, seigneur et enseignant de la petite troupe. Il y avait un trésorier, il y avait, semble-t-il, un cercle plus particulier de 3 disciples. Et le bon ordre, Jésus, il y en a souci. Vous rappelez-vous aussi, lors de la multiplication des pains, lorsqu'il s'agit d'une bien grande foule, il est fait asseoir par 50. Jésus se montre, là, soucieux de ce que nous pouvons appeler discipline, me semble-t-il. Sans que ce soit étouffant, ça empêche des discussions entre les disciples, une certaine liberté de parole, même à son égard à lui. Je crois que c'est très intéressant à observer. Si nous passons au livre des Actes, alors nous y trouvons bien sûr l'autorité exercée par les apôtres. Nous y trouvons un cas qui relèvera du sujet de la discipline au chapitre 6, au sein de l'ensemble de l'Église. Il y a aussi, alors je crois que c'est ce qui frappe d'abord à propos de la discipline, le coup qui frappe Ananias et Saphira. Je crois qu'on peut dire là, nous avons la discipline au degré suprême, capital, de son exercice. On peut-être aussi évoquer acte 15 et les décisions prises, qui ont bien sûr une grande portée théologique sur la circoncision et les païens qui se convertissent, la décision prise de ne pas leur imposer la circoncision, mais des mesures qui semblent avoir un caractère circonstanciel, adapté à la situation du temps. On demande à ces païens qui se sont convertis de s'abstenir des animaux étouffés, du sang et de l'impudicité, de l'inconduite. Probablement, en tout cas ça me paraît plus probable, des choses qui, venues des habitudes païennes, choquaient tout spécialement les frères d'origine juive au sein de l'Église. Ça a un certain rapport, en tout cas, à la discipline. Les épîtres de Paul sont pour nous le filon le plus riche en données dans la Bible. Ils attestent l'institution de gouvernement dans l'Église, comme nous le savons bien, il est question de ceux qui dirigent, 1 Thessaloniciens 5:12, par exemple. Il y a des exhortations générales, Romains 16, 17 suivant, est un texte fort et que nous aurons à citer encore, je crois, cet après-midi, parce que nous parlerons de l'aspect plutôt doctrinal des infractions. Je vous exhorte, frères, à avoir à l'œil, je pense qu'on pourrait traduire comme ça, ceux qui provoquent des divisions et des scandales, des achoppements contre la doctrine dans laquelle vous avez été instruits, fait disciples, et séparez-vous d'eux, écartez-vous d'eux. Un point, me semble-t-il, important, c'est une déclaration très, très générale qui est faite ici dans Romains 16, 17. 1 Thessaloniciens 5,14. Je cite des passages en plus de ceux que nous avons lus dans les Épîtres aux Corinthiens. 1 Thessaloniciens 5,14. Je vous exhorte, frères, à avertir ceux qui vivent dans le désordre. 2 Thessaloniciens 3, alors plus développé, et prescrit une sorte de quarantaine pour ceux qui n'observent pas les règles, essentiellement dans la conduite, que l'apôtre fixe dans ses lettres. Ceux qui ne veulent pas travailler, qui vivent une vie désordonnée, oisive. Il y a aussi Tite 3, 10 et suivant, avec, dans toutes les épîtres pastorales, cela correspond bien à leur sujet, d'autres indications encore, sur la manière d'agir, mais Tite 3, 10 et suivant est particulièrement net. L'homme hérétique, littéralement, hereticum, l'homme qui crée des divisions, évite-le, prends tes distances de lui, au fond. Après, une et une deuxième admonestation. C'est là encore une procédure avec des étapes indiquées de manière assez précise. Donc nous avons chez Paul, dans les épîtres de Paul, pas mal de données. Dans les épîtres qui suivent, il y en a quelques-unes, il y en a peut-être un peu moins au total. Il y a un certain accent dans l'épître aux Hébreux sur ce qui dirige à la fin, vous vous rappelez. Il y a dans les épîtres de Jean, et de Jude aussi d'ailleurs, des avertissements contre les faux docteurs, de la surrume de Pierre, qui sont très forts également, et qui indiquent, je pense surtout aux épîtres de Jean, la nécessité de séparation. Ne pas dire salut à celui qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ, la deuxième de Jean est particulièrement nette. Et l'Apocalypse, dans les épîtres, les lettres aux sept églises, aussi ont des matériaux intéressants. La question de la discipline, il est reproché à certaines églises de ne pas l'exercer, de laisser cette femme Jézabel enseigner sa doctrine de Balaam, etc. Les Nicolaïtes semblent être particulièrement les perturbateurs visés, contre lesquels la discipline devrait s'exercer, mais certaines églises ne l'exercent pas, et le Christ glorifié leur reproche, en indiquant aussi certaines sanctions qu'il pourra prendre, et puis la sanction ultime, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, de l'enlèvement du chandelier, si tu ne te repens pas. Voilà, me semble-t-il, ce qu'un survol peut nous faire voir et qui prouve, alors, me semble-t-il, contre toute contestation possible, au-delà de toute contestation possible, que l'Église du Nouveau Testament connaissait une véritable discipline au sens que nous avons défini. Alors, le fondement de cette discipline, sur la base donc de tout ce que nous venons de voir, il me semble qu'on peut... C'est toujours un schéma assez commode quand on est dans un exposé. Utiliser le chiffre 3, le nombre 3, et désigner un triple fondement à l'existence de la discipline dans l'Église. Il y a d'abord la nature de l'Église. S'il convient qu'il y ait discipline dans l'Église, c'est parce que l'Église n'est pas n'importe quel corps social. C'est le corps du Christ qui doit avoir une conscience claire de sa différence d'avec le monde. Il me semble que c'est en Corinthiens 5 que nous avons lu tout à l'heure qui est le texte le plus frappant à cet égard. Quand je vous ai écrit de ne pas avoir de communication avec les débauchés, etc., mais bien sûr, c'est pas ceux du monde, en général, parce que ça, il faudrait sortir du monde, et ce n'est pas la volonté de Dieu. mais c'est avec quelqu'un qui se nomme en frère. Il y a ceux du dehors et puis ceux du dedans. Une très très claire notion de cette différence fonde dans ce passage l'exhortation de Paul à l'exercice de la discipline. Et il l'associe dans ce texte au thème de la pureté qui convient à un tel peuple de Dieu, corps de Christ, en utilisant l'image de la Pâque. Christ, notre Pâque a été immolée, et maintenant toute notre vie chrétienne correspond à la fête des pains sans levain. Il utilise là de typologie, dans l'Ancien Testament, lorsque la Pâque avait été sacrifiée, le chevreau ou l'agneau, plus souvent, de la Pâque, on célébrait ensuite la fête des pains sans levain pendant plusieurs jours, et il ne fallait pas la moindre trace de levain. Eh bien, dit Paul, Christ, notre Pâque, a été immolé, l'événement de la croix est l'antitype de ce sacrifice de la Pâque dans l'Ancien Testament, et ce qui suit, alors, c'est toute notre vie chrétienne, doit correspondre à la fête des pains sans levain, donc éliminons le vieux levain, le levain de la perfidie, de la méchanceté. Pureté, sincérité et pureté, dit-il, doivent marquer la vie de cette communauté pascale qui vit, et tout le long, c'est pas une question de quelques jours, c'est toute sa vie, qui vit la fête, l'antitype de la fête des pains sans levain. Voilà l'argumentation de l'apôtre en 1 Corinthiens 5, qui me paraît intéressante à observer, et bien sûr, nous notons qu'il y a là un très grand contraste avec la conception multitudiniste de l'Église. L'idée de l'Église comme un corps mélangé, selon l'expression classique, corpus mixtum, l'idée de l'Église comme le champ où il y a le blé et l'ivraie ensemble, qui croissent et il ne faut pas essayer de les séparer du tout. C'est l'idée que les réformateurs de la réforme magistérielle ont exprimée à propos de la parabole du blé de l'ivraie, et que saint Augustin déjà avait utilisé dans ce sens. Cette idée-là donc s'oppose à ce sens si net qu'a l'apôtre de la différence entre ceux du dedans et ceux du dehors. Et dans une église de type multitudiniste, il peut y avoir une certaine discipline, mais certainement pas aussi précise, aussi intensément voulu que dans les perspectives d'un Corinthiens 5. Il ne me semble pas tellement étonnant qu'au XVIe siècle, la discipline était le souci tout particulier des anabaptistes. Les églises anabaptistes ont été celles, sans doute, qui ont mis l'accent sur la discipline le plus fortement et qui l'ont exercée de fait, avec souvent d'ailleurs l'idée de relier, la traduction de Luther avait favorisé la chose, de relier, ben c'est le cas d'employer le verbe, les paroles liées et déliées de Matthieu 16 et 18, avec le baptême comme engagement d'une bonne conscience envers Dieu, en Empire 3, mais Luther avait traduit, et je crois assez justement, Bund, lien d'alliance. Oui. Le mot engagement pouvant très bien être rendu à peu près de cette façon. Alors entre bindem, lié, et bund, la relation pouvait être faite. Dans la conception des anabaptistes de l'époque, par l'engagement du baptême, l'individu se liait et se plaçait sous le lien de la discipline de la communauté. On peut ajouter peut-être que Bucer, que j'ai évoqué, qui mettait l'accent sur la discipline, est sans doute celui des réformateurs qui a essayé le plus d'aller vers une église de professants dans la pratique, s'éloigner du modèle simplement multitudiniste. C'est ce que le livre de Gottfried Hamann, Entre la secte et la cité, sur l'ecclésiologie de Bucer, met bien en lumière, et puis qu'il a finalement échoué, qu'il n'a pas réussi, au bout du compte, à instaurer cette église plus professante, disons à Strasbourg. Mais il y a un lien, me semble-t-il, entre l'ecclésiologie de type professante et un un plein droit donné au thème de la discipline. En même temps, toujours à propos de la nature de l'Église, je crois qu'il faut dire que ce qui fonde la nécessité de la discipline dans cette Église corps du Christ, c'est qu'elle n'est précisément pas pure. Qu'elle demeure faillible et effectivement défaillante dans tous ses membres. L'exercice de la discipline, en tout cas tel qu'il correspond au Nouveau Testament, présuppose qu'il y aura dans l'Église même, des écarts, des péchés qui appelleront des mesures disciplinaires. Tous les chrétiens sont encore obligés de guerroyer contre la chair, selon la lutte qui est décrite dans Galates 5, la chair et l'esprit, et contre donc tout perfectionnisme. Il est de la nature de l'Église d'être marquée par ce que le Nouveau Testament appelle la chair. Deuxième fondement, la valeur de la règle. J'ai déjà effleuré le sujet en parlant d'un doctrinaire et des tendances anarchisantes, mais je crois qu'il faut encore souligner que dans le Nouveau Testament et dans toute la Bible, l'existence de normes objectives, de préceptes ayant force de loi et d'institutions munies d'autorité pour sanctionner les écarts, l'existence d'une espèce de droit dans la vie du peuple de Dieu, que tout cela est affirmé, n'est pas considéré comme incompatible avec l'amour et la liberté chrétienne. Au contraire, et c'est là qu'il s'agit pour nous de ne pas nous laisser piéger par les tendances de la mentalité contemporaine, parce qu'il nous paraît très clair que nos contemporains, et nous-mêmes nous sommes toujours influencés, tendent automatiquement à opposer ce qui est de l'ordre de la loi établie, surtout s'il y a des sanctions qui accompagnent sa violation, et puis ce qui est de l'amour et de la liberté. L'amour et le droit paraissent antinomiques, s'excluent mutuellement. Or, ce n'est pas la perspective biblique du tout. Il faut le souligner. Il faut essayer de nous désaffecter de cette façon de voir. Et à ce propos, d'ailleurs, je fais une remarque, c'est aussi un peu marginal, mais ça peut vous intéresser. Il arrive que des gens qui opposent l'amour, la vie d'un côté, et puis la loi, la doctrine dans sa précision normative de l'autre, reconnaissent qu'il faut quand même de la loi et des précisions normatives, mais continuent à l'opposer quand même à la vie. Il y a la vie, mais il faut aussi le squelette. Il y a la vie, il faut d'un côté, mais il faut quand même le squelette de la doctrine, des règles, de la discipline, d'autre part. Je crois que c'est encore insuffisant. Et tout à coup, il y a quelque temps, m'est apparue une évidence dont on ne tient pas assez compte. Le squelette, il est vivant. Nous tendons trop facilement à penser comme si le squelette nécessaire était une charpente comme métallique et n'était pas vivant, était quand même un terme opposé à celui de la vie. Mais le squelette, il vit, les os sont vivants. Je crois que nous avons à résister à cette suggestion qui nous est constamment faite d'une sorte de polarisation d'un côté la vie, de l'autre l'objectivité normative. Oui. Ce n'est pas comme ça dans l'écriture, du tout, du tout. Troisième fondement de la discipline, la seigneurie de la tête. Nous avons un roi, précisément l'Église n'est pas une douce anarchie, parce qu'elle est le peuple d'un Seigneur. Je crois que lorsque le Christ est appelé la tête de l'Église, c'est son autorité qui est d'abord en cause. Je ne veux pas entamer un très grand débat, mais je vous dis ma conviction, que je crois fondée sur de solides études de ce sujet, conviction que l'image de la tête dans le Nouveau Testament ne signifie pas l'origine ou la source, comme certains prétendent aujourd'hui, mais signifie effectivement l'autorité exercée. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église, il exerce son autorité, et cela se traduira par l'exercice de la discipline. Et deux points de précision que je rajoute à cet endroit. Il me semble possible de dire que nous lui appartenons deux fois à ce chef qui est le nôtre. C'est comme une appartenance au carré. Nous lui appartenons en premier lieu au titre de la création. Lui devons tout. C'est par lui, en lui que tout a été créé. Il a un droit sur nous préalable. Et puis nous lui appartenons une deuxième fois parce que nous avons été rachetés au prix de son sang. Comme l'apôtre le souligne si fort, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. La fin d'un Corinthiens 6, d'autres textes. Et deuxième note que j'ajoute, et qui est en rapport avec le message des lectures d'Ésaïe, qui ont été faites au début pour orienter toute notre pensée, la sainteté du Dieu trois fois saint et de Jésus-Christ qui est ce Dieu trois fois saint, Dieu le Fils. Cette sainteté s'intéresse au comportement moral ou immoral des humains. Ça nous paraît assez évident parce que nous sommes imprégné de lecture biblique, mais nous avons à nous rendre compte que ça n'allait pas de soi du tout dans le monde antique, et sans doute pas de soi dans le monde moderne aussi. Le religieux et le moral, éthique, étaient considérés comme presque indépendants l'un de l'autre. Le religieux concerne la liturgie du culte concerne certaines expériences de type mystique dans toutes les religions. Mais les dieux, est-ce qu'ils s'intéressent aux questions de moralité quotidienne? Non. La plupart des dieux ne s'en soucient guère. Les deux sphères sont disjointes très couramment dans les religions humaines. Et c'est un trait caractéristique de la révélation biblique que la jonction, la synthèse parfaite entre le religieux et le moral. Ce Dieu biblique trois fois saint, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, etc., et il déclare avoir en exécration, c'est une abomination à ses yeux, quoi ? Les poids truqués pour la balance. Quelques grammes de plus ou de moins. Vous voyez ? C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas ça ailleurs. Et je pense que c'est un des fondements de ce que nous appelons l'exercice de la discipline. Que ce Dieu Saint, Seigneur de l'Église, à qui elle appartient deux fois, s'intéresse à ce détail du comportement et aux règles qui sont celles qu'on appelle couramment de la moralité. Voilà le triple fondement que je vous propose. Je vois que je risque de ne pas laisser tellement de temps pour l'entretien. Aïe, 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 vous voyez que mes craintes n'étaient pas vaines, mais je vais aller un peu plus vite. Les fins de la discipline correspondent en fait à ce que nous venons de voir. Et je suivrai ici le schéma de Calvin qui a traité de la discipline dans l'institution chrétienne. Triple fin, l'honneur de Dieu, dont nous portons le nom. Si l'Église est contaminée par des membres pourris, une partie de la honte en revient au chef. Et je pense qu'on peut noter que dans le Nouveau Testament, c'est tout spécialement les épîtres pastorales qui montrent ce souci de l'honneur de Dieu et de l'Évangile, compromis si la discipline n'est pas respectée. Il faut exceller dans les œuvres bonnes pour que la saine doctrine en soit ornée aux yeux des païens. Il faut que les responsables jouissent une bonne réputation. C'est un point qui est mis en valeur. Et puis le grand thème, la grande image d'un Timothée 3.15, il faut savoir comment se comporter dans la maison de Dieu, dans l'Église, qui est la maison du Dieu vivant, et qui est la colonne et le socle de la vérité. Non pas au sens qu'elle serait première en autorité par rapport à la vérité de l'Écriture. Ce serait le renversement que parfois les catholiques ont voulu insinuer, mais ce n'est certainement pas le sens de l'apôtre. Selon l'autorité et l'engendrement, c'est d'abord le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ et la pierre angulaire. Et c'est sur ce fondement que s'édifie l'Église. Mais l'Église est, de son côté, par une sorte de renversement de l'image, socle les colonnes de la vérité dans ce sens qu'elle doit rendre la vérité visible, la faire apparaître à tout regard, la mettre en valeur, comme un socle et une colonne mettent en valeur la statue ou le chapiteau, je ne sais, qui se trouve en haut. L'Église a une fonction de mise en valeur de la vérité dont elle est dépositaire, et lorsque la discipline ne s'y exerce pas, alors c'est la vérité même qui en est atteinte. Deuxième fin, le maintien de la communauté, l'aspect de contagion que le mal trop aisément toléré dans les rangs du peuple de Dieu comporte aussi. Un peu de levain fait lever toute la pâte, en Corinthiens 5. Ça, c'est clairement le souci de Paul. Et c'est aussi de lui que la citation de la sentence proverbiale, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est le deuxième grand aspect. Si on ne fait rien, peu à peu, c'est l'ensemble de la communauté qui risque d'être atteint. Et troisième fin de la discipline, l'amendement du pécheur. Et cela, bien sûr, est quelque chose de très important. Les sanctions disciplinaires, quand il faut en prendre, ne sont pas des punitions au sens strict du terme, ne sont pas des peines au sens judiciaire. Elles ont un but pédagogique et médicinal. Elles sont prises, ces sanctions, pour que le transgresseur change d'attitude, se repente, et elles n'ont pas d'autre fin. Cela est très, très clairement marqué dans les textes de l'apôtre Paul et dans ceux que nous avons lus au commencement en particulier. Il reste une incertitude à l'égard de cette fonction médicinale dans quelques passages. Alors je les signale puisque nous essayons de prendre à bras le corps les difficultés mêmes. Dans 1 Corinthiens 5, il est dit donc que de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une intention pédagogique, que c'est pour le salut même de l'individu qui sera ainsi livré à Satan? Nous essaierons de commenter cet après-midi sur le sens exact d'expression. Je le crois, je pense que c'est l'interprétation la plus plausible. Dans le sens, me semble-t-il, probablement, que s'il n'était pas ainsi châtié, un châtiment donc correctif, son comportement serait tel qu'il ne pourrait plus être envisageable qu'il soit sauvé. Il porterait si fortement atteinte à l'honneur de Dieu que, disons, il serait impensable qu'il demeure dans le salut. Alors cette mesure qui est prise à son encontre est une mesure qui, quand même, pour son bien, pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, est-ce que c'est le même sens qu'il faut donner à 1 Timothée 1:20? C'est encore plus contestable. Je pense que l'interprétation pour 1 Corinthiens 5 que je vous donne est contestable, mais qu'elle est quand même acceptable. 1 Timothée 1:20, c'est encore plus difficile à trancher comme problème. Ceux qui ont fait naufrage quant à la foi, de ce nombre, Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors le mot apprendre, là, c'est le mot pour pédagogie, hein, c'est pas idéal. On pourrait dire que c'est un châtiment pédagogique, d'après le mot même qui est employé. Mais évidemment, on peut aussi comprendre, selon le sens de la formule en français, qu'ils apprennent à... ce sera simplement la punition de leur péché. Mais la possibilité d'un rôle encore pédagogique, même pour Alexandre et Hyménée, existe dans l'interprétation de ce verset. Il semble bien que dans certains cas, cette limite soit franchie, et dans 1 Jean 5, à propos des antichrists, je pense, le terme n'est pas employé dans ce verset, mais de celui qui commet un péché à la mort, je pense qu'il s'agit des antichrists contre lesquels l'épître est écrite. Donc dans ce passage, il est dit que pour cela, il n'y a plus à prier. C'est une formule, bien sûr, assez obscure et énigmatique. Donc au verset 16 et suivant, si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui n'est pas à la mort, qu'il prie, et il lui donnera, il sans Dieu, la vie, à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort. À propos de celui-ci, je ne dis pas de demander, prier. Alors, hypothèse exégétique, je ne prétends pas que ce soit tranché avec une entière certitude. Il y a des cas d'endurcissement et de fausses doctrines tellement abominables qu'il n'est plus possible, je dirais sans présomption, pour le chrétien de s'adonner à la prière pour la personne en cause. Prier pour quelqu'un, c'est se projeter dans une certaine solidarité avec lui. C'est, en quelque sorte, se lier à lui. Dans le mouvement même de la prière. Or, dans le cas des antichrists qui commettent ce péché à la mort, leur éloignement est tel, leur endurcissement est si profond que cela dépasserait les forces humaines. C'est trop dangereux pour nous, en quelque sorte. Nous laissons cela à Dieu, simplement, sans nous charger, en quelque sorte, de leur sort, comme étant notre souci dans la prière. Ce serait finalement présomption au-delà de la mesure qui nous convient. Nous sommes toujours, nous, astreints à une certaine mesure dans notre finitude. Voilà une interprétation au moins possible. Cela voudrait dire donc qu'au-delà d'une certaine limite, l'aspect pédagogique est perdu de vue. Nous ne pouvons plus entretenir d'espoir. C'est au-delà pour nous. Sans que ça veuille dire que Dieu soit lui incapable d'agir encore, mais nous laissons cela au Seigneur. Voilà comment En tout cas, je propose de comprendre cette parole. Enfin, les tentations de la discipline. Il me semble, conformément à ce que j'ai dit dans l'introduction, il y a des excès jumeaux qui peuvent, au bout du compte, se ramener aux mêmes motivations profondes, de gauche et de droite, si vous voulez, qu'on peut appeler les tentations de la discipline par laquelle se corrompt dans l'Église. Alors, il y a d'un côté l'excès de la négligence, l'excès en moins, et de l'autre, l'excès du rigorisme ou du fanatisme, l'excès en plus, mais les deux communiquant sans doute souvent secrètement. Alors l'excès de la négligence, bon, c'était celui dans lequel étaient tombés les Corinthiens et qui fait s'indigner l'apôtre au début d'un Corinthiens 5. Si j'essaie, alors là, je commence déjà à empiéter sur le terrain plus pratique de l'application. Si je cherche à voir ce qui est dans nos églises, pour autant que je les connaisse, la mienne, correspond à cet excès, il me semble qu'il y aurait l'excès d'une passivité face aux transgressions qui fait qu'on les déplore, qu'on en souffre mais qu'on ne fait pratiquement rien, ou qu'on se contente d'une action masquée, feutrée, dans l'espoir que le transgresseur s'excommuniera lui-même. Je crois que le délaissement de la discipline dans beaucoup de nos églises est le résultat de cette attitude, et parce que ça marche. Si ça ne marchait pas, alors nous finirions par prendre le taureau par les cornes et appliquer des mesures disciplinaires nettes, explicites. Mais en fait, la plupart du temps, les gens qui dévient gravement s'excommunient eux-mêmes, ils ne viennent plus. Alors on est peut-être soulagé, ou on n'a rien fait, ou simplement on a fait sentir de manière feutrée. Mais je me demande si, bien que cela marche jusqu'à un certain point, ce n'est quand même pas au prix de choses très importantes dans la vie de l'Église qui, du coup, manque.
Le but pédagogique.
Et le but pédagogique n'est pas atteint tout spécialement. Oui. Il y a aussi, comme tentation du côté de la négligence, l'acception de personnes, l'indulgence pour certaines catégories de péchés graves. L'apôtre Paul parle de la cupidité, qui est une idolâtrie, en même temps que de la débauche, de l'inceste, en 1 Corinthiens 5. Est-ce que nous exerçons la discipline dans ces domaines-là? Il me semble que très, très peu. Je me rappelle quelqu'un qui s'indignait, c'est une personne qui n'était pas membre de l'Église, mais qui savait la situation, ça ramène à l'époque de la guerre, alors c'est loin, hein, mais on me l'a dit plus tard, j'étais trop petit à ce moment-là pour apprécier moi-même la situation, mais une famille pastorale qui crevait la faim, des enfants qui étaient anémiés, faute du minimum vital, et dans le conseil, un riche banquier, une église évangélique. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de scandaleux contre quoi il ne faisait rien, mais est-ce qu'on fait grand-chose dans ce genre de situation dans nos églises en général? Alors, acception de personne, sélectivité quant à la discipline. Peut-être encore un obstacle très réel, le secret excessif dans les soucis de la paix. Secret excessif. Les procédures disciplinaires restent dans un tout petit cercle. Alors, ce n'est pas forcément mauvais et interdit. Je ne tranche pas d'une manière unilatérale en cette affaire. Mais je remarque, par exemple, à propos de la faute d'un ancien, Paul dit dans 1 Timothée 5:20, reprends-le devant tous. Or, il me semble que nous exerçons souvent la discipline en essayant de ne pas faire de vagues, en essayant de garder les choses les plus secrètes possibles. Il y a des justifications, bien souvent, mais est-ce que nous ne débordons pas trop de ce côté-là? Voilà, au moins,
une question. Parfois, il y a aussi un manque d'imprécision dans l'enquête. Et nous n'osons pas interroger suffisamment.
Timothée n'était pas membre de cette église. Il était considéré presque comme un pont ou comme un pont.
Oui, je pense qu'il était revêtu d'une délégation d'autorité, si vous voulez, apostolique, en l'occurrence. Et c'est vrai que ça peut modifier un petit peu même ce trait. C'est à lui de reprendre l'ancien, mais c'est vrai que, devant tous, qu'on peut au moins discuter, savoir si entre anciens la chose doit se faire de la même façon, publiquement. Bon, ça c'est vrai que ça peut se discuter, mais parce que nous aurons l'occasion de le faire davantage cet après-midi. L'autre excès, je vais attendre le quart, mais nous n'avons pas le temps de faire en parler ce matin, le fanatisme rigorisme, c'est, je pense, un très très grand piège. Le légalisme risque presque toujours de s'attacher à une discipline lorsqu'on est conscient de la nécessité de la discipline. Le légalisme, c'est quelque chose de terrible qui s'attache à nous, c'est vraiment la ruse de la chair. Et alors, dans l'exercice de la discipline, je crois que le légalisme se marque dès que les sanctions prennent un sens punitif qu'elles ne doivent pas avoir. Mais c'est très spontané. C'est presque tout. Quelqu'un a commis une grosse faute, il doit payer. Il doit payer pour ça. Alors, il me semble que je dois dénoncer comme tout à fait inadmissible cette idée que quelqu'un, en particulier quelqu'un qui avait une autorité, par exemple, doit payer pour une faute. C'est le Seigneur qui a tout payé. Je crois que l'idée d'une dette à régler doit être entièrement rapportée au sacrifice du Christ pour nous. Que les mesures donc de châtiment sont uniquement pédagogiques, et s'il y a repentance crédible, il n'y a plus lieu de les maintenir. L'apôtre Paul me semble très clairement le dire au début de 2 Corinthiens, dans le passage que nous avons lu ensemble. Alors je sais qu'il y a un problème pratique sur lequel nous allons revenir, c'est celui de la crédibilité de l'expression de la repentance. Dans certains cas, on a l'impression, et quand ça devient 77 fois cette fois, on a l'impression que les gens disent très facilement, oui, je me repens, oui, je suis désolé d'avoir fait ça, et que ce n'est pas très profond. Alors, vous êtes tenté de dire, bon, alors, voilà quand même mesure disciplinaire de sanction pour éprouver la réalité de la repentance. Ce n'est peut-être pas exclu, ça. Mais attention. Attention à l'insinuation du légalisme est toujours possible. Puis il y a aussi l'aspect, alors, des aptitudes à la responsabilité. Si quelqu'un n'a pas pu exercer un ministère, par exemple, et avoir une autorité pendant un certain temps, ce n'est pas une sanction, forcément. Simplement, il a besoin d'être mis à l'épreuve, comme toute personne dans l'Église n'a rien commis de particulier avant d'être introduit dans un ministère. Mais ça sera souvent pris comme une sanction. Et vous voyez donc là les difficultés qui s'entraînent les unes sur les autres. Autre tentation du côté du rigorisme, celle de l'exercice d'un pouvoir sur autrui. Reconnaissons que ce danger existe, que même à notre échelle, ridiculement limitée, de responsable de communauté, il y a un pouvoir que nous exerçons. Et que cela flotte, ce qui n'est pas très joli en nous, que d'exercer le pouvoir, de marquer notre pouvoir à l'infliction des sanctions, cela peut être une complaisance très, très charnelle. Nous avons, je crois, à nous en garder comme des mécanismes de projection. Nous sommes bien sévères à l'égard d'autrui parce que nous portons sur lui ce que nous ne voulons pas avoir au fond de nous-mêmes. Et puis alors, il y a toutes les tentations du perfectionnisme et d'une différente mesure par rapport à ce que le Nouveau Testament suggère. Un exercice de discipline, parfois, sur les vétilles des questions sur lesquelles le Nouveau Testament invite à la tolérance fraternelle, si vous êtes sur ce point d'un autre avis, je vous éclairerai aussi là-dessus, ne changez pas, Philippe III, c'est cette attitude dans le Nouveau Testament qui préserve beaucoup de souplesse, et qui prend quand même une mesure dure et pénible, avec un grain. C'est pas comme ça. Nous risquons, par un désir perfectionniste de pureté envers l'Église, de ne pas le respecter. Donc, c'est un excès par rapport à l'enseignement de l'Écriture. Voilà quelques suggestions. Il n'y a pas exposé de cela. Nous sommes entièrement pris longtemps. J'aurais aimé vous parler un petit peu, mais enfin, mais attendez.
C'est la résistance, comment ?
L'exercice participe, il me semble, qu'on a la plus souvent de toute l'Église. Là, on comprend qu'on est rationaliste. Je reconnais que dans enfin, il n'y a pas le moyen, si t'es jeune, de trancher à ce point.
J'avais une question.
Je pense quoi, donc, ça me dit pas,
c'est l'amendement du péché.
Il n'y a pas aussi de pédagogie de ça, disant,
non seulement ça, qui a transgressé, mais a inspiré la France. Parce que si les pas, disons, on banalise. Mais par contre, on est quand même là, ici, de maintenir la paix. On est on s'en parle, complètement, disons, bon, tout, parce qu'il n'y a pas aussi qu'une crainte, c'est comme un gars, c'est un enfant, les autres, je vois, c'est mon tour. Il y a aussi une pédagogie d'État qui peut marcher dans la vie dans ces domaines-là. Mais pas dans le pécheur. Mais aussi, disons, ça peut être prévenu. Les autres, les enfants.
Ça pourrait aussi se rattacher à la deuxième phase, sur la. C'est vrai que j'ai mis l'accent humain, la non-contagion, parce que là, ça va ajouter sous le dessin des fins de l'État. Ça va, ça va. Le chef, ça va être en on va tous. Ça, le souci de manifester ces jugements de manière très, très violente. Non.